ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Hello, hello, bienvenue sur Curiosity, l'émission qui questionne des invités écrivains ou écrivaines. Alors, nous ne sommes pas là pour aller sur Mars, contrairement à certains, ni pour parler aux cailloux, mais bien pour rester les pieds sur Terre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette rentrée 2025 et je suis heureuse de vous accueillir à nouveau dans mon émission pour parler de sciences humaines, mais pas que. On a aujourd'hui la chance de recevoir une experte en psychologie sociale pour parler d'esprit critique. Bonjour Séverine Falkovitch, bienvenue sur Radio Primitive. Vous êtes l'autrice de « Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations », paru en 2023 aux éditions Erol. Vous êtes également autrice de « Complotisme et manipulation, petit guide pour déjouer les fausses croyances, fake news et autres fadaises », avec un co-auteur, Alexander Samuel. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui vous présenter à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour. Je suis maître de conférence en psychologie sociale. Je fais partie du laboratoire de psychologie sociale d'Aix-en-Provence. Je suis également psychologue. Et mes champs de recherche touchent à la manipulation comportementale, l'influence sociale. Et puis, j'ai développé un intérêt pour l'esprit critique. Et puis, en fait, toutes les formes de manipulation qui peuvent nous amener à prendre des décisions qui ne seraient pas, adaptées. Et donc, mon objectif dans mes travaux, dans ce que je peux écrire, aussi de ce que je diffuse sur les réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que nous soyons plus libres.
D'accord, très bien. Et c'est ce qui a motivé justement vos travaux et l'écriture de cet ouvrage en 2023. Est-ce que vous aviez depuis longtemps en tête de travailler sur ces sujets-là ?
Alors en fait, j'ai découvert par hasard l'esprit critique et je me suis dit que c'était vraiment très important. Donc je me suis formée pour moi. Mmh. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit que ça pouvait être très utile pour mes étudiants. Donc à l'époque, ça n'était pas encore au programme. Mais comme ce que je faisais, j'avais le sentiment qu'il était possible de le faire en un nombre d'heures un peu moins important, j'ai réussi à caser quelques séances ou à injecter en fait un peu d'esprit critique au sein des séances que j'animais déjà. Mmh. Et quand ensuite on s'est retrouvés pendant la période Covid, j'avais rencontré des personnes qui étaient déjà connues dans le champ de l'esprit critique lors des REC, des rencontres de l'esprit critique à Toulouse. Mmh. Donc ce sont des rencontres qui sont organisées par Willy Lafranc et qui mobilise à la fois des vulgarisateurs, des universitaires, etc. En fait, j'avais été à la rencontre de personnes qui avaient déjà une visibilité. Je leur avais dit ce serait bien que vous écriviez un ouvrage d'introduction à l'esprit critique parce que oui. Moi, j'aimerais bien en disposer pour mes étudiants. Et à ce moment-là, ils m'avaient dit peut-être pas maintenant, ils étaient engagés dans d'autres projets. Et puis, un soir, je me suis amusée, moi, comme ça, pour le plaisir, parce que j'avais une idée à écrire. Et puis, une page, deux pages, et puis, en fait, 10 pages, mais tout de suite, très rapidement, en 2-3 jours. Mmh. Et le hasard a fait qu'à ce moment-là de l'écriture, je venais à peine de commencer, j'ai rencontré une personne qui m'a permis d'entrer en contact avec Erol. Et Erol a été très enthousiasmée. Et puis, c'est comme ça, en fait, que le projet est né, que le livre est né ensuite derrière.
D'accord. Et donc, c'est un formidable outil pour en apprendre davantage sur l'esprit critique, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de contenu aujourd'hui qui existe, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui parlent de ce sujet-là. C'est assez difficile à définir l'esprit critique. À l'origine, il y a la zététique. Est-ce que vous pourriez développer justement ce qu'est la zététique ? Enfin, vous évoquez justement un petit historique dans cet ouvrage. Ça date de quand ? Enfin, comment ça s'est développé en France, la zététique ?
Alors, en fait, ce que je propose plutôt, c'est de d'abord parler de ce que c'est que l'esprit critique, parce que ça n'est pas si complexe que ça. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. La représentation qu'on en a, c'est le fait de tout simplement réfléchir à ce que l'on fait, aux décisions qu'on prend. Donc, certes, mais on ne sait pas nécessairement comment développer son esprit critique et donc sur quelle dimension l'esprit critique repose. Donc, je vais d'abord parler de ça, puis après, je parlerai un peu de zététique pour évoquer la démarche. Alors, l'esprit critique, pour exercer son esprit critique, on a besoin d'avoir des connaissances, parce qu'en fait, sans connaissances, on va dire que notre raisonnement tourne un peu à vide. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des connaissances solides, d'être capable d'avoir une culture générale la plus riche possible, donc s'informer régulièrement et puis si possible donc essayer de faire en sorte que les contenus d'informations auxquels on s'expose soient les plus qualitatifs possibles. Par contre, dans un deuxième temps, avoir accès à ces contenus ne suffit pas, parce qu'il est possible dans le tas qu'il y ait des contenus qui ne soient pas qualitatif. Donc, il est nécessaire de trier ces contenus de manière à pouvoir vous vérifier que ce qu'on pense être des connaissances s'agit bien de connaissances et pas de fausses croyances ou alors de simples croyances. Parce que si.
Ou de simples opinions aussi ?
Oui, alors les opinions, elles peuvent. Oui, alors les opinions, c'est encore différent. Les opinions, elles peuvent s'appuyer. Soit sur des connaissances, soit sur des croyances, en fait, ou les deux. L'opinion, en fait, ça va être ce qu'on va conclure, on va dire, de ce que l'on sait, de ce que l'on pense savoir. Voilà. Mais donc, pour s'assurer de la validité de ce que l'on pense savoir, eh bien, c'est intéressant de savoir de quelle manière on traite l'information. D'avoir des connaissances sur la façon dont on traite notre rapport à l'information, dont on gère nos informations. Donc, on entend beaucoup parler partout, par exemple, des biais cognitifs. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Ça va être le fait d'avoir une déviation systématique dans le traitement de l'information. Donc, par exemple, le biais de confirmation d'hypothèse, avoir tendance à rechercher l'information qui va dans le sens de ce que l'on sait déjà, ou alors à accorder du crédit de la même façon à ce que l'on sait déjà, tout en écartant les informations contradictoires. Donc, prendre conscience...
Vous auriez un exemple, peut-être, par rapport à justement ce biais de confirmation d'hypothèse ?
Oui. Par exemple, si on souhaite savoir si les vaccins sont dangereux ou non, eh bien, il est possible que sur le net, dans Google, on tape les mots-clés « vaccin danger ». Et malheureusement, le fait d'avoir ajouté le mot-clé « danger » derrière, on va être exposé à plein d'informations qui vont nous amener à penser que les vaccins sont dangereux. Et alors que si on souhaite vraiment savoir ce qu'il en est, il faudrait être capable d'explorer des arguments qui vont peut-être là, pour le coup, à la fois dans le sens de nos craintes, mais également dans un sens contradictoire, de manière à pouvoir avoir accès à toute l'information disponible et être capable de tirer les bonnes conclusions.
C'est en quelque sorte penser contre soi-même, finalement, contre propres hypothèses.
Oui, on peut avoir des modes de fonctionnement parfois qui vont nous amener à rester dans la même bulle, dans le confort de ce que l'on pense contrôler en termes de connaissances, de savoir, ou alors parce que tout simplement on va avoir envie de maintenir le statu quo dans la façon dont on se représente le monde. Donc, prendre du recul pour essayer de basculer sur un mode de traitement analytique, en décomposant les choses ça va être aussi très utile. Enfin, voilà, le fait d'avoir des idées sur la façon dont nous fonctionnons, se méfier de soi-même, ça va être un premier point. Et donc, il y a plein de biais cognitifs. Il n'y a pas que les biais cognitifs. Quand j'évoquais, par exemple, la pensée analytique, une pensée analytique plutôt qu'intuitive, c'est-à-dire qu'il va juger vite, qu'il va se laisser prendre par les émotions, là, on va parler d'heuristique. Il peut y avoir d'autres choses qui nous influencent encore. Et ça, par exemple, dans le champ de la psychologie sociale, eh bien, on est capable d'identifier de très nombreuses variables d'influence. Je peux prendre par exemple l'exemple de la preuve sociale. On va avoir tendance à penser que ce qui est vrai, c'est ce que les autres pensent être vrai. Et donc, quand on voit un grand nombre de personnes penser ou faire quelque chose, le fait d'accorder plus de vérité à ce caractère collectif va nous amener à être davantage suivistes. Pour donner un exemple concret de la façon dont la preuve sociale s'exerce, tout simplement, imaginons que nous soyons sur les réseaux sociaux et qu'on voit un influenceur qui est très suivi, on va peut-être commencer par lui être plus favorable que s'il s'agissait d'un tout petit compte avec une très faible visibilité.
Oui.
Donc là encore, le sachant, il va falloir se méfier. Pareil, en fait, dans la façon dont nous nous représentons, nous pouvons avoir à la fois des stéréotypes, des conceptions erronées, des critères qui peuvent nous amener à accorder notre confiance à une information donnée, hein, pour savoir quel est le statut qu'on lui accorde. Par exemple, on va surévaluer le statut de l'expert. Donc, l'expert... quand on l'entend s'exprimer, on aura tendance à lui faire confiance parce qu'on se dit, c'est son champ. Sauf qu'il y a des experts qui peuvent avoir choisi eux-mêmes d'évoquer des positions, mais qui pour autant ne vont pas dans le sens de ce que l'on attendrait dans le champ de leur expertise. Parce que, par exemple, ils vont vouloir adosser leurs travaux à des positions idéologiques qui leur conviennent. Mais pour autant, ça ne sera pas de la science. Je vais donner un exemple tout bête. Imaginons, et ça a déjà pu être le cas, qu'un chercheur qui travaille sur les différences hommes-femmes ait envie de dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Peut-être qu'il va inventer des dispositifs qui vont artificiellement produire des résultats qui confirment l'hypothèse qu'il est censé avoir émise. Et alors, du coup, quand on analyse ces recherches, il y a des recherches de différents niveaux. Puis il peut y avoir des recherches qui sont qualitatives, d'autres qui ne sont pas qualitatives. Et donc, il faut voir ce que l'ensemble, par exemple, des experts qui travaillent sur la différence homme-femme peuvent dire, penser, et pas juste dans le champ de la subjectivité, mais que disent l'ensemble des recherches sur le sujet. Voilà. Et au-dessus de l'expert, donc il y a d'autres niveaux. Il y a donc l'expert. Et au-dessus donc de l'expert, s'il y a par exemple le fait de voir l'ensemble des études qui ont été faites sur le sujet, donc on peut accorder davantage de confiance encore. Eh bien, encore au-dessus, on va pouvoir voir si, au vu de toutes les études qui ont été faites, l'ensemble des experts sur le sujet sont d'accord sur une position donnée. Je donne un exemple. Le réchauffement climatique, actuellement, fait l'objet d'un consensus et donc il n'est plus contesté. Donc là, c'était un exemple, mais pour développer son esprit critique, c'est vrai que du coup, c'est cette question du rapport à l'information, savoir comment elle est construite, comment elle est diffusée, comment elle nous influence, tout ceci est très intéressant parce qu'on se situe encore à un autre niveau et donc c'est encore d'autres variables. Par exemple, les informations auxquelles nous sommes exposés, dans le champ du journalisme, est-ce qu'elles sont fiables ? Savoir que ce n'est pas toujours fiable, c'est important. Et pourquoi ce n'est pas toujours fiable ? Parce qu'en fait, les journalistes eux-mêmes n'ont pas toujours la compétence nécessaire pour être capables de repérer quels sont les bons experts. Et ce n'est pas de leur faute, tu vois, il y a plein de raisons pour lesquelles ils peuvent eux-mêmes mobiliser des personnes qui ne sont pas compétentes.
C'est une question de aussi d'ailleurs. Vous en parlez dans le livre également, c'est la question du traitement de la formation dans le journalisme qui doit être assez rapide par nécessité et qui entraîne justement le fait qu'on ne traite pas forcément l'information de manière assez juste en fait.
Oui, effectivement, ils doivent aller vite. Et puis même si on prenait déjà un peu plus de temps, des fois, quand on n'est pas spécialiste d'un champ, on n'est pas capable, quand des experts disent des choses différentes, de savoir lequel de ces experts a raison. On n'en a pas toujours d'ailleurs conscience du fait que les experts du champ ne sont pas en accord. Donc, on va peut-être se satisfaire d'une personne que l'on a peut-être rencontrée par hasard ou qui a déjà de l'audience dans les médias, qui est disponible, qu'on a l'habitude de mobiliser, et ou alors simplement on sait qu'aussi des fois dans les médias il y a des positions qui sont régulièrement diffusées, puis alors que ça peut correspondre à des choses qui sont fausses, mais pour autant on va continuer à les diffuser. Je peux vous donner un exemple, après les fêtes on entend tout le temps parler de régime détox.
Oui.
Bon, le foie fait très bien son travail, on n'a pas besoin du tout de faire un régime détox. Mais pourtant, si les journalistes eux-mêmes pensent que de toute façon, si on a besoin de ça, et puis tous les ans, on en parle, etc., du coup, ils vont peut-être faire appel à une personne qui en parlera à ce moment-là, après les fêtes, pour remplir leur grille, et sans savoir en fait que ce serait tout simplement à abandonner. Et puis après, essayer de comprendre encore pourquoi on n'a pas... on ne développe pas spontanément son esprit critique de la façon dont on en aurait besoin. Il y a plein d'autres raisons. C'est qu'en fait, on a naturellement quand même un certain esprit critique. Oui. Au quotidien, on arrive quand même à peu près à se débrouiller. Bon. Par contre, dès que les situations deviennent un peu plus complexes, souvent, on peut être sujet à plein de pièges et se laisser prendre, quoi.
Donc, c'est une solution un peu de... on va vers la facilité, parfois, par nos manques de vigilance dans le traitement de l'information. C'est quoi ? C'est un besoin d'aller à l'essentiel, de pas réfléchir, une paresse intellectuelle ?
Justement, il y a ce manque d'information de départ. Il y a cette absence d'informations sur la façon dont nous fonctionnons.
Oui.
Un truc tout bête aussi, le fait de dire c'est naturel, donc c'est bien.
Ouais.
En fait, on a tous au départ pensé ou entendu dire que parce que c'était naturel, c'était bien. Alors qu'en fait, non, ce qui est naturel n'est pas toujours bien. Mm-hmm. Et sachant qu'on y est sensible, on sait que ceux qui nous vendent des cosmétiques ou toutes sortes de produits ou même certaines formes d'alimentation, même qui rejettent les médicaments, la science, Big Pharma, ils vont utiliser cet argument-là pour nous convaincre. Et donc on peut être sujet à toutes ces choses-là. Et alors pourquoi ? Parce qu'en même temps, on n'a pas toujours le temps effectivement de se pencher en profondeur sur les questions auxquelles on s'intéresse. Et on va vite. Et puis je dirais qu'avec les réseaux sociaux, en plus, on a pris d'autant plus l'habitude d'aller vite, l'information qui est disponible est tellement... il y a une telle profusion.
Oui.
Et en plus, on a ce sentiment rapidement d'être capable de maîtriser des connaissances, alors qu'en fait, non, pas nécessairement, parce qu'on ne va pas comprendre, connaître les choses en profondeur, de manière à pouvoir être parfaitement éclairé sur les questions auxquelles on s'attaque, quoi.
Et on peut être confronté du coup à ce que vous appelez qui est communément appelé, en tout cas j'imagine dans le domaine de la zététique, les moisissures argumentatives. Et donc vous citiez justement l'argument de la santé au naturel, la naturopathie, ce genre de choses. C'est l'appel, ce qu'on peut appeler l'appel à la tradition, non ? C'est les remèdes de grand-mère ou c'est ce genre de choses ?
En fait, il y en a vraiment plein.
Ouais.
Et peut-être, donc là, c'est ce qu'on appelle c'est le champ de la pensée fallacieuse.
Ouais.
La pensée fallacieuse, en fait, va souvent mobiliser des arguments ou des argumentations qui nous semblent logiques, mais pourtant elles seront fausses. Et il y en a de deux types. On va parler de sophismes quand la personne qui va les utiliser sera mal intentionné, que son objectif sera de nous manipuler, par exemple, hein, à son profit. Et on a d'autres côtés, ce qu'on appelle les paralogismes. Ben, en fait, ce sont exactement les mêmes choses, les mêmes arguments ou argumentations fausses, mais on les appelle paralogismes cette fois, parce qu'ils sont utilisés par des personnes qui sont bien intentionnées. Et on peut nous-mêmes aussi se laisser piéger simplement en réfléchissant par ce qui relève de la pensée fallacieuse. Et donc, si vous voulez, bien, ces pièges, en quelque sorte, dans lesquels les autres essaient de nous emprisonner ou dans lesquels des personnes bien intentionnées aussi nous amènent à tomber. En fait, c'est presque notre quotidien parce que ça correspond à nos habitudes. Puis, oui, et on a besoin de se décider rapidement. On est confronté à un monde complexe, donc on a tendance à simplifier toujours les choses, à essayer d'aller au plus vite et d'utiliser ce que j'évoquais tout à l'heure, des heuristiques de raisonnement qui nous permettent d'être fonctionnels. Alors, un synonyme d'heuristique, ce serait raccourci.
Oui.
On a besoin de raccourcis pour juger vite. Et des fois, ces raccourcis fonctionnent très bien, parce que, par exemple, pour la preuve sociale, le fait de s'inspirer de ce que un grand nombre de personnes font, ça peut être utile. Imaginons qu'il y ait un danger et qu'on voit plein de gens qui se mettent à courir dans la même direction. En n'ayant pas la possibilité d'analyser l'ensemble de la situation, ça sera bien plus... ça sera plus sécuritaire pour nous de les suivre plutôt que d'attendre d'avoir tous les éléments. Voilà. Mais donc, du coup, il y a des situations spécifiques dans lesquelles ça pose souci. Et oui, ce que j'allais dire aussi, c'est que justement, quand on a des besoins, là, on devient particulièrement vulnérable parce que y a des personnes, des fois, qui auront anticipé ces besoins et qui vont essayer de nous vendre des produits, de nous vendre une argumentation. Et donc, dès lors que des gens auront essayé de déployer des dispositifs fallacieux, c'est problématique. Ou alors pareil, en fait, si on ne dispose pas des bonnes connaissances alors qu'on a des besoins, on risque de suivre des idées qui sont fausses.
Et c'est aussi l'enjeu de hiérarchiser l'information qu'on reçoit et d'avoir les outils aussi à disposition pour contrer ces biais-là, en fait. Je voulais justement rebondir avec l'échelle de niveau de preuve, qui me paraît un outil assez intéressant, justement, en termes de hiérarchisation de l'information, si tu pouvais en dire quelques mots.
Oui, en ce qui concerne le niveau de preuve, j'évoquais le fait, par exemple, que l'expert n'était pas le niveau de preuve ultime, mais donc on a tendance aussi à penser que, par exemple, ce que l'on pense est fiable, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, si on prend de l'homéopathie sans savoir que l'homéopathie n'apporte qu'un effet placebo, et si on a le sentiment d'aller mieux derrière, eh bien, on pourra peut-être faire une fausse corrélation, penser que l'amélioration de son état est liée à la prise de l'homéopathie. Donc, seul, on n'est pas capable d'établir systématiquement, en tout cas pas dans ce type de cas, des rapports de causalité. Et donc, ça ne nous permet pas d'appréhender le monde. Alors, on va se dire, ok, ne restons pas seuls, allons voir notre voisine. Là encore aussi, l'opinion subjective de la voisine, c'est la même chose. On restera dans la subjectivité. Donc, l'idée, ça va être à chaque fois qu'on le peut, d'essayer d'accéder à des informations qui ont été analysées, qui ont été passées, on va dire, au crible de méthodologies scientifiques. Du coup, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas non plus avoir accès à toutes les bonnes réponses dont on aurait besoin, parce qu'il y a des fois des choses que l'on aimerait savoir, mais pour lesquels on n'a pas de réponse parce que soit ça sort du champ de la science, ou soit parce que la science ne s'est pas penchée dessus, soit parce que c'est encore en réflexion. Donc là, on parle vraiment de faire du tri entre les connaissances qui devraient relever des fausses croyances. D'accord. Mais même, je dis qu'à ce niveau-là, il y a aussi une chose qui peut être intéressante, c'est que au pire, le fait de se dire « je ne sais pas, mais je crois que », c'est déjà exercer son esprit critique.
D'accord. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était la question des enjeux identitaires qui nous amènent finalement à une moindre performance dans le traitement de l'information. Est-ce que vous pourriez développer justement ces questions-là? Comment ça peut justement nous empêcher de bien raisonner et bien traiter l'information?
Oui. Alors, quand nous sommes exposés à une information ou quand nous sommes tout simplement en train de communiquer avec une autre personne, on peut considérer que dans toute situation de communication, il existe deux types d'enjeux. Des enjeux identitaires qui ont trait à l'image que l'on a de soi, que l'on donne de soi, à ses appartenances sociales, ses différents ancrages, etc. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre côté, des enjeux qu'on appelle des enjeux épistémiques, qui désignent la motivation de l'individu à connaître le monde. Et du point de vue de nos ressources attentionnelles, ces deux types d'enjeux sont interdépendants. C'est-à-dire que plus on va accorder de l'importance aux uns, moins on pourra accorder de l'importance aux autres, et en termes de ressources attentionnelles. Je donne un exemple tout bête. Une personne qui va passer son oral, si elle a bien travaillé le fond, on va considérer qu'à ce moment-là, elle peut se consacrer à l'image qu'elle donne de soi. Donc, on voit, et tandis que si elle n'a pas bien travaillé le fond, ça va être plus compliqué pour elle de faire attention à son paraverbal, etc. Donc, cet exemple-ci nous montre de quelle manière il y a cette interdépendance au niveau de l'attention. Voilà, ça c'est le premier point. Et après, en situation, donc, si on est face à une personne, par exemple, qui n'est pas d'accord avec nous, qui appartient à un groupe adverse. Je ne sais pas, moi, par exemple, imaginons que je sois de gauche et que la personne en face, elle est de droite. Et donc, je vais la juger menaçante pour mon identité, pour mes valeurs, pour les positions que j'ai envie de défendre. Eh bien, dans la communication, à ce moment-là, les enjeux identitaires seront fortement saillants. On se sentira menacé dans ce qui peut advenir par rapport à son groupe d'appartenance, son identité, etc. Et du coup, on va accorder moins d'attention aux arguments de fond que cette personne en face va développer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'on accorde peu d'attention, on ne va pas les traiter correctement, on ne va pas tout entendre, tout mémoriser et peut-être rendre justice à la superbe argumentation sur le fond qui est en train de développer son interlocuteur. Bon. Et donc, c'est dommage parce que le fait que ce traitement de l'information ne soit pas, le plus performant possible, on voit bien que ça peut gêner la communication entre les groupes, entre les personnes qui peuvent défendre des positions différentes, mais parce que derrière, il y a des enjeux qui relèvent soit de leur appartenance sociale ou de leurs valeurs.
Est-ce qu'on peut parler du coup de biais de discrimination exogroupe, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, on ne va pas traiter avec justice les arguments de l'autre groupe, voire la personne qui appartient à l'autre groupe. Ouais. Donc, il y a une discrimination. Le groupe auquel on appartient a tendance à être jugé plus favorablement que le groupe adverse. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de discrimination. Et puis, ça peut d'ailleurs fonctionner dans plein de champs, même dans nos jugements, dans la façon dont nous percevons les autres groupes.
Très bien. On va faire une petite pause musicale pour bien commencer l'année. En cette période de rentrée, on redémarre en douceur et on va s'écouter pendant une dizaine de minutes Vivaldi, l'extrait des 4 saisons, l'été. De quoi bien commencer l'année et prolonger cette belle saison. À tout de suite. Retour sur Radio Primitive après une belle pause revigorante. Nous sommes avec Séverine Falkovitch qui nous parle aujourd'hui de ses travaux sur l'esprit critique avec son ouvrage Au cœur de l'esprit critique paru en 2023 aux éditions Erol. On parle aujourd'hui de zététique. Alors qu'est-ce que la zététique pour ceux que ça interroge, qui ne connaîtraient pas ce terme?
Donc dans un premier temps, on a parlé d'esprit critique et la zététique en fait consiste à permettre aux gens de savoir ce que c'est que l'esprit critique. Donc, on va, par exemple, faire en sorte de diffuser les connaissances qui permettent de mieux l'exercer. Hein. Donc, les connaissances à la fois de fond et les connaissances ce qu'on a besoin d'avoir sur ces modes de fonctionnement. On essaie de diffuser l'esprit critique. On va aussi promouvoir les contenus scientifiques. Donc là aussi, l'idée, c'est de donner aux gens des connaissances qui sont solides, qui ont été construites sur la base de, on va dire, d'éléments fiables.
Oui.
Mais par exemple, on peut penser qu'un vulgarisateur qui fait bien son travail, il entre dans le point que je viens d'évoquer de cette démarche. Ce qu'on fait également encore, c'est de lutter contre les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires.
Mmh. Donc, les pseudo-sciences, donc.
Ouais, on ne va pas lutter contre toutes les fausses croyances, on va lutter essentiellement contre les fausses croyances délétères, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles de nous faire du mal.
Mmh.
Parce que bon, des croyances, on a plein de croyances.
Oui.
On ne peut pas s'attaquer à tout. On a probablement aussi besoin parfois de croire. Je vais donner un exemple tout bête, mais ça peut faire du bien à des gens de penser qu'après la mort, il y a autre chose. Donc, ça n'est ni vrai ni faux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas savoir. Mais c'est l'ordre de la croyance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuves qu'il existe ou qu'il n'existe pas un après. Donc voilà, on ne va s'attaquer qu'aux fausses croyances délétères. Donc la zététique, en fait, consiste à s'inscrire un peu dans cette démarche. Et après, on peut faire un peu plus, un peu moins. Enfin, on n'est pas obligé non plus de tout faire. Il y a des personnes qui ne vont, par exemple, que lutter contre les fausses croyances délétères. Donc, on va être, par exemple, du côté de ceux qui vont débunker les informations. Et puis d'autres aussi qui vont être dans l'éducation à l'esprit critique. On va aider les gens à s'approprier l'outil.
Et pour rebondir aussi sur les fausses croyances, moi c'est les fausses croyances délétères du coup et leurs conséquences. Quelles sont celles qui sont les plus répandues aujourd'hui et les plus alarmantes? On sait qu'il y en a eu pas mal pendant la pandémie de Covid-19, mais aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt en matière de santé qu'on devrait s'alarmer, en matière de politique par rapport au réchauffement climatique ou parfois même juste dans la vie quotidienne, ou les trois?
En fait, ce serait un tort de ma part de commencer à lister comme ça un certain nombre de croyances en disant, ben voilà, Vous avez le bac ici qui correspond à ce en quoi il ne faut pas croire.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que si je faisais ça, bah, je vous demanderais de me croire. Alors que bah, je pourrais aussi peut-être me tromper parfois. Hein. Alors, bon, ce que j'essaierai de dire, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ou même, pas que moi, j'essaierai d'être prudente, mais je pourrais quand même me tromper. Donc, plutôt qu'on nous mâche le travail et qu'arbitrairement on nous dise « ça, c'est faux », moi, j'invite les gens aussi à essayer de s'intéresser à ces fameux critères de tri qui vont les amener, eux, à comprendre pourquoi on doit rejeter telle ou telle croyance. Alors, par contre, je ne suis pas en train de dire, bah, du coup, faites le travail tout seul. Hein. Mais imaginons qu'on s'intéresse à la naturopathie. On dit, est-ce que c'est valide ou pas ? Est-ce que j'ai raison d'accorder ma confiance à la naturopathie ou pas ? Bon, bah, là, l'idée, c'est d'aller voir donc, les connaissances disponibles sur le sujet. Mmh. Et donc, en s'étant informé quand à ces pièges dans lesquels nous pouvons tomber en se méfiant de nous-mêmes et en allant chercher aussi de l'information contradictoire, bon bah voilà, je vous parlais de la naturopathie pour dire que on va se rendre compte du fait que c'est une pseudo-science. Alors, je peux donner la définition d'une pseudo-science, ça ressemble à de la science, mais ce n'est pas de la science. Donc, j'ai donné un exemple tout bête, hein. Dans le champ de la naturopathie, donc parce que j'aime bien justement dire pourquoi en fait on va rejeter ça et pas juste le dire arbitrairement.
Oui, bien sûr.
Dans le champ de la naturopathie, on va par exemple vous dire les noix, c'est bon pour le cerveau. Et donc, manger des noix. Sauf que vous ne savez pas pourquoi, mais eux, ils savent pourquoi. Ils se basent sur ce qu'ils appellent le principe de similitude. Quand on regarde à quoi ressemble une noix, ça ressemble à un cerveau. Et donc, voilà comment ils ont établi la relation. Et le bénéfice que ça peut représenter pour le cerveau. C'est totalement arbitraire et c'est faux. Mmh.
Mais une fois qu'on connaît justement ce principe de similitude et que on réalise que c'est pour ça en fait qu'on cherche à nous faire croire ça, on peut aussi se détacher très rapidement quoi.
Alors pas nécessairement, parce que le problème c'est que souvent dans ces champs-là, il n'y a pas que des choses qui sont fausses. Des fois, ils mélangent du vrai et du faux. Par exemple, le naturopathe, il peut vous dire bah, « mangez plus de fruits et légumes ». Sauf que bah, ça, ce sont déjà les recommandations générales qu'on nous demande de suivre pour être en bonne santé.
Ouais.
Donc,
d'où la complexité, quoi. Ouais.
Oui, et puis d'ailleurs, ce que j'ai évoqué, il n'y a pas que ça qui nous permet d'éliminer la naturopathie. La naturopathie, par exemple, elle va supposer dans son essence que si on mange correctement, on va nécessairement être en bonne santé. Et que c'est le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée qui va causer même des maladies. Alors qu'en fait, par exemple, bah, ça peut ne pas être du tout le cas. On peut parfois manger très bien, mais pour autant développer des maladies graves, etc. Donc, la vision que l'on a de la maladie dans le champ de la naturopathie, elle est dangereuse. Mmh. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ça va, ils croient un peu n'importe quoi sur les noix et plein d'autres choses, ceci dit. Mais dans la mesure où ça nous amène à manger plus de fruits et légumes, c'est sympathique, on y va. Mais oui, non, parce qu'en fait, il y a des doctrines associées à ces fausses croyances, parfois, qui sont dangereuses et qui peuvent, par contre, nous détourner de ce qui serait, on va dire, le plus sain pour nous, le plus adapté et ce qui... Enfin, voilà, ce qui correspond à ce que nous devrions faire si nous avions toutes les connaissances et un rapport critique à ce champ de fausses croyances, hein, donc, pour le coup ici à cette pseudo-science.
Mmh. Mais du coup, je rebondis là-dessus, sur ce côté où il faut avoir un rapport critique par rapport à... Enfin, ce serait idéal quoi, pour nos choix au quotidien, d'avoir ce rapport critique-là, mais jusqu'à coup douter en fait, parce qu'à un moment donné c'est vrai que le doute, vous en parlez dans l'ouvrage Au cœur de l'esprit critique, à un moment donné ça peut aussi verser dans la méfiance et donc perte de confiance dans la science finalement.
Oui, alors faudrait on va dire douter raisonnablement. Donc, pas douter tout le temps en se disant bah, « finalement, rien n'est fiable, il est impossible d'avoir accès à des informations justes ». Donc, l'idée, c'est de ne pas tomber justement dans un relativisme et qui va aussi décourager, qui va donner une fausse représentation des connaissances dont on dispose actuellement. Alors qu'en fait, on sait plein de choses. La science permet de savoir plein de choses. Mais comme vous l'évoquez, en fait, ce dont on va avoir besoin, c'est de savoir en qui placer sa confiance. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'avoir confiance en certaines entités. Et on a effectivement, notamment pendant la période Covid, eu le sentiment que la science, finalement, c'était un grand bazar et que les chercheurs, les scientifiques n'étaient pas capables finalement de produire des connaissances fiables. Alors que c'est faux. Faut savoir que il n'y a pas que la science, il y a aussi ce qu'on appelle la recherche. C'est-à-dire, avant de produire des connaissances solides, fiables, peut-être pour la plupart, sur lesquelles on ne reviendra pas, parfois on est en questionnement, mais c'est ce qui précède le stade ultime de la connaissance. Mmh. Et dans ces moments-là, de la recherche, des fois, nécessairement, les chercheurs cherchent. Ils ne savent pas, ils échangent entre eux, des fois ils sont en désaccord, etc. Et peut-être qu'on a trop mis en avant les incertitudes que les chercheurs pouvaient avoir entre eux pendant le Covid, premièrement. Et deuxièmement, en fait, on a généré aussi un sentiment d'incertitude en donnant parfois la parole à des personnes qui se décrétaient expertes sans l'être. Voilà, donc cette incapacité à identifier les bonnes sources d'information, je pense que c'est aussi ce qui a créé de la confusion. Mais je pense qu'en fait, on peut se dire qu'on est capable d'arriver à acquérir une certaine compétence dans un champ. Il faut essayer de l'investiguer. Et donc, comme je l'évoquais, peut-être selon cette démarche zététique, alors, sans que forcément on fasse absolument tout, tel que j'ai défini tout à l'heure, mais on peut arriver à retrouver du contrôle. Enfin, faut pas paniquer, c'est possible. Après, ça peut demander du temps, ça peut être aussi fastidieux. Mm-hmm. Et oui, je pourrais dire aussi, c'est que en fait, moi, je pense que c'est vraiment utile de développer son esprit critique régulièrement, un petit peu par là. Et sans attendre d'avoir forcément un besoin, une urgence qui fait qu'on va agir comme ça dans la précipitation, décider, parce qu'en fait, on sera au pied du mur. Donc, il vaut mieux se protéger en amont, essayer d'arriver à trier un peu régulièrement les informations auxquelles on est exposé, même quand des fois, ce n'est pas si important que ça. Mm-hmm. Parce qu'être capable d'identifier les pièges, ça va nous permettre, quand on sera donc dans une situation cruciale, d'allumer des petites lumières pour se dire « Ah, là, il y a un souci, il faut que je fasse quelque chose. »
Très bien. Mais on va faire à nouveau une petite pause musicale. Alors, vous avez proposé à l'écoute Robert Wyatt's Si Sang. Pourquoi ce choix ?
D'abord parce que j'adore Robert Wyatt. J'adore l'album Rock Bottom. Et ce que j'aime aussi tout particulièrement dans cet album, c'est le fait que lorsque Robert Wyatt chante, il change de tonalité. À la première écoute, déjà, j'étais extrêmement surprise par la façon dont la musique se développait. Et à chaque fois que j'écoute, j'éprouve encore toujours le même plaisir.
Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien, Séverine Falkovitch. On se retrouve pour un épisode 2 au mois d'octobre. Restez à l'écoute et tout de suite, Robert Wyatt, Si Sang.
Every time The next full moon.